Vous écoutez On lit pour vous.
Un collectif réclame une politique québécoise pour accroître l'accès à l'eau. Un texte de Chania Cédion, paru le 17 juin 2026 dans Le Devoir. S'appuyant sur une récente étude qui confirme l'infime accès aux eaux du Québec, un regroupement d'organisations réclame des modifications au Code civil et des États généraux pour que l'accès à la nature ne soit pas un privilège, mais un droit collectif. Dans 74 % des municipalités, le taux d'accès libre à l'eau est inférieur à 1 %. Selon l'étude, l'accès aux eaux publiques du Québec. Un état des lieux, publié début juin 2026. André Bélanger, de l'Alliance pour l'accès à la nature, soutient au Devoir que des changements législatifs pour faciliter l'accès aux berges sont nécessaires. S'il y a des blocages, ce n'est pas parce que les municipalités ne veulent pas. C'est parce que c'est trop compliqué et trop contraignant, ajoute celui qui est également directeur général de la Fondation Rivière. Encourager les propriétaires volontaires. La première demande de l'Alliance est de favoriser toutes les actions volontaires. André Bélanger donne l'exemple des propriétaires qui laissent les passants accéder aux berges par leur terrain. Il mentionne qu'en cas de blessure, le Code civil du Québec tient pour responsable le propriétaire qui risque des poursuites. Selon lui, si on avait une mesure protégeant les propriétaires volontaires, peut-être qu'on aurait un gain net d'accessibilité aux rives. Cette mesure pourrait notamment être accompagnée d'un code national de conduite avec des règles claires et de la sensibilisation. Le volet juridique de l'accès par des terrains privés complique l'organisation de certains événements, comme le Festival d'eau vive de la Haute-Gatineau, explique le directeur général de Canot-Kayak Québec, Emmanuel Laferrière. Ce festival organisé par l'organisme attire environ 500 personnes chaque année, mais est plus compliqué à mettre en place depuis 2 ans. Pour cause, le propriétaire du terrain qui permettait aux festivaliers de passer, une compagnie de tourisme aventure, a fermé ses portes. Des enjeux environnementaux à la beauté de la nature, chaque mardi dans votre boîte courriel. Voir plus d'infolettres. J'accepte de recevoir les communications par courriel du Devoir. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien de désinscription au bas d'un de nos courriels. Politique de confidentialité. Il faut renégocier avec un propriétaire qui voudrait bien nous laisser sortir sur son terrain et qui, souvent, a peur au niveau de la responsabilité civile, dit M. Laferrière en entrevue au Devoir. Si Canot-Kayak Québec fournit une assurance au propriétaire terrien pendant l'événement, celle-ci disparaît après, ce qui empêche les citoyens d'avoir accès à cette portion de la rivière, bordée pratiquement juste par des terrains privés. L'Alliance pour l'accès à la nature, qui regroupe une dizaine d'organisations, veut profiter de la saison électorale pour interpeller les différents partis politiques. L'objectif est que ce dossier se travaille entre plusieurs ministères, étant donné que les questions touchant la justice, la santé, les affaires municipales et les sports et loisirs mentionne le directeur général de Canot Kayak Québec. Elle veut également la tenue d'états généraux pour réfléchir à tous les autres mécanismes qui s'offrent à nous, en s'inspirant de ce qui se fait autour du monde. Ne voulant pas déclencher une guerre entre les propriétaires et les usagers, André Bélanger, de la Fondation Rivière, pense qu'il est nécessaire de trouver un équilibre, de débattre d'un modèle québécois. Moins de 2% d'accessibilité. Selon l'étude, l'accès aux eaux publiques du Québec, sorti lundi, 40% des lacs sont complètement inaccessibles, car ils sont enclavés par des propriétés privées. Pour ce qui est des rives analysées par l'étude, 70% d'entre elles sont privées. Un des gros enseignements du rapport, c'est que le problème est généralisé, à l'échelle de la province, explique Rodolphe González, professeur de géographie à l'UQAM et co-auteur de l'étude avec Sébastien Rioux. Il croit qu'il serait difficile de renverser une situation aussi mature, aussi catastrophique, une plage à la fois. On ne peut pas laisser aux municipalités le poids et la responsabilité de rendre aux Québécois et Québécoises l'accès à l'eau, lâche-t-il. Les points d'eau pris en compte sont ceux qui sont situés sur le territoire québécois, d'une taille utilisable et à une distance raisonnable d'une route pour en garantir l'accessibilité théorique. Les chercheurs sont arrivés à la conclusion que moins de 2% des rives analysées sont accessibles. Il s'agit de la première étude complète chiffrant un phénomène connu depuis les années 1960. Pour M. González, chiffrer le phénomène empêche de se mettre la tête dans le sable. Son espoir est que l'étude puisse contribuer à lancer un débat, en faire un sujet de société et servir aux organismes. C'était « Un collectif réclame une politique québécoise pour accroître l'accès à l'eau ». Un texte de Chania Cédion, paru le 17 juin 2026 dans Le Devoir.
La baleine à bosse Gaspard, de retour pour un 18e printemps. Un texte de Gabriel Bella, paru le 19 juin 2026 dans La Presse. L'une des premières baleines à bosse du printemps a été identifiée le 15 juin 2026 dans le fleuve Saint-Laurent. Et ce n'est pas la moindre. Il s'agit de Gaspard, une femelle qui a acquis le statut de petite vedette chez les observateurs de cétacés et qui revient année après année dans l'estuaire avec une fidélité exemplaire. Gaspard, c'est une baleine intéressante et c'est toujours un plaisir. C'est la première identifiée officiellement dans l'estuaire cette année, remarque au bout du fil Odélie Brouillette, chargée de projets en communication scientifique au groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. GREMM. C'est un capitaine de bateau, Gilles Bouchard, qui a aperçu le rocal au large des Escoumins le 15 juin 2026. La baleine, née en 2005, a été vue pour une première fois dans l'estuaire en 2006. Elle a depuis été revue chaque été dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, dans les environs de Tadoussac, sauf en 2008. C'est donc sa 18e année de suite dans ces eaux. Elle est très démonstrative et très sociable. Elle a escorté de nombreuses fois de nombreuses femelles avec leur veau de l'année lors de leur arrivée dans le golfe, note le cétologue amateur René Roy. Gaspard a vraisemblablement un attachement bien particulier pour le fleuve. Elle avait passé son premier été dans les régions de Blanc-Sablon et de la Mingani, dans le golfe, où le Saint-Laurent se jette dans l'océan. Elle a ainsi brisé la règle, voulant qu'un jeune rorqual à bosse retourne se nourrir à l'endroit où sa mère l'a amené. Gaspard a adopté le parc marin du Saguenay, note le GREM, sur son site Internet. On la reconnaît, car elle a des marques particulières de silhouette de fantôme sur le lobe droit de sa nageoire caudale, indique Odélie Brouillette. C'est cette forme sur la queue qui lui a valu son nom, en l'honneur de Casper, le célèbre fantôme. On remarque le motif aux ailes de fantôme dans la partie encerclée de la queue de Gaspard. Deux fentes pour les yeux, juste en haut de ce qui ressemble à un sourire. Elle est aussi connue sous le nom de Boom Boom River en Gaspésie ou encore H626 chez les scientifiques. Migration annuelle. Gaspard, c'est le rorqual que j'ai le plus souvent observé, lâche au bout du fil René Roy. J'ai d'ailleurs une photo de Gaspard imprimée chez moi, ici dans la salle de télévision, indique l'homme qui a fait une trentaine de sorties d'observation chaque année pour le compte de la station de recherche des îles Mingan. Les rorquals à bosse comme Gaspard, qui fréquentent l'estuaire, sont de grands voyageurs. À l'automne, ils entament un long périple vers les mers chaudes des Antilles et des Caraïbes pour la saison des naissances. Puis, au printemps, plus de 6500 rorquals à bosse retournent vers le nord. Ils nagent 5500 km pour regagner l'Atlantique Nord et le Saint-Laurent, où ils viennent s'alimenter. René Roy note que la renommée de Gaspard est surtout alimentée par la petite industrie de l'observation des baleines. On dit « Gaspard revient », « Gaspard rentre à la maison ». Ça, ce sont des termes qu'on n'utilise pas du côté scientifique, dit-il. Mais chez eux, ça alimente un intérêt pour la population et pour cette baleine-là en particulier, qui effectivement est revenue dans l'estuaire et dans le golfe toutes les années depuis sa naissance. Une belle histoire de rétablissement. Bonne nouvelle, les experts de la station de recherche ont noté une augmentation de la fréquentation des rorquals à bosse dans le Saint-Laurent depuis la fin des années 1990. Leur population était considérée comme menacée en 1982 au Canada. Aujourd'hui, le rorqual à bosse est classé non en péril grâce à l'interdiction de la pêche commerciale et à la mise en place de zones marines protégées. Cette belle histoire de rétablissement tranche avec les trajectoires moins heureuses du béluga en voie de disparition dans le Saint-Laurent ou du rorqual bleu. Je trouve particulièrement inquiétantes les observations de rorqual bleu, note René Roy. À l'époque, dans le secteur que j'observe, je voyais une quarantaine de rorquals bleus différents dans une saison. Alors que maintenant, quand on en voit trois ou quatre ou une dizaine ou une douzaine, c'est à peu près ça. Puisque le rorqual bleu s'alimente presque exclusivement de krill, ces bancs de petits crustacés, il est beaucoup plus affecté par le réchauffement de l'estuaire, indique M. Roy. Mercredi, toutefois, le cétologue amateur a rencontré trois rorquals bleus au large de Matane. Parmi eux se trouvait la femelle Jawbreaker, qui a été vue dans l'estuaire de façon intermittente depuis 1991. Si tout va bien, elle se retrouvera bientôt dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, où les baleines aiment aller s'alimenter. C'était la baleine à bosse Gaspard, de retour pour un 18e printemps. Un texte de Gabriel Bélan, paru le 19 juin 2026 dans la presse.
Alex Gay Bastien change le visage de la télé québécoise. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 20 juin 2026 dans le magazine Fugue. Attachant, souriant, énergique et résilient, Alex Gay Bastien a fait taire ceux qui tentent de réduire les personnes trans à une vision négative en devenant le tout premier homme trans à compétitionner dans une télé-réalité québécoise. Lui qui a atteint le top 6 de la 4e saison de Survivor Québec. Après ton élimination, tu as mentionné que les personnes trans existaient depuis toujours, que vous ne vous en alliez nulle part et que les gens doivent s'habituer à vous voir dans leur télé. Pourquoi était-ce important pour toi de passer ce message? En ce moment, je vois tellement de personnes qui essaient de nous effacer, de nous faire croire qu'on est tellement différents, différentes, et qu'on ne mérite pas les mêmes droits que tout le monde. C'est cru et très sévère. Moi, je voulais envoyer un message de bonté. Au fond, je me fous un peu de ce que les transphobes pensent, parce qu'on existe et qu'on est là pour rester. Alors c'est plus à eux de s'habituer. En participant à Survivor, je voulais quasiment que les gens oublient ma transidentité au fil des épisodes, qu'ils se laissent porter et réalisent qu'ils m'aiment bien, même s'ils n'avaient jamais vu de trans avant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à Survivor Québec? Je voulais cocher un élément sur ma bucket list. Dans la vie, je cherche l'adrénaline et les émotions fortes. Dès que j'ai vu qu'il y aurait une édition québécoise de l'émission, je rêvais d'y participer. J'étais dans un moment de ma vie où j'avais besoin d'un grand coup pour me faire du bien et me rendre fière. J'avais besoin de dépassement de soi. Et je voulais présenter un renouveau de moi-même. Quelles étaient tes craintes face à l'aventure? Il y en avait peu. J'étais prêt mentalement à dormir à la belle étoile avec les bébites, ne pas assez manger et participer à un jeu de stratégie difficile mentalement. La seule chose qui me rendait appréhensif, c'était le chantage émotionnel que j'allais vivre et les trahisons humaines qu'on allait se faire subir. Je ne suis pas comme ça dans la vie. Je suis tellement un livre ouvert que ça peut me mettre dans le pétrin parce que je prends tout avec un grain de sel. J'avais peur de mal comprendre ce que je pouvais dire, d'avoir l'air niaiseux et de toffer 2 secondes dans le jeu. Tu es non seulement la première personne trans à jouer à Survivor Québec, mais aussi l'un des premiers hommes trans à participer à une télé-réalité ici. À quel point ton coming out trans auprès des autres participants et participantes était une étape stressante? J'ai détesté faire ça. Je ne fais plus de coming out. Dans mon entourage, tout le monde le sait. Je ne me cache pas. Alors j'avais hâte de sentir le bon moment pour en parler. J'étais irritée à chaque heure qui passait sans l'avoir dit. Dans un jeu stratégique où tu ne connais personne, le fait d'ouvrir une partie intime et vulnérable de toi, ça vient quand même avec une réflexion. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est une façon d'attirer la sympathie pour te sauver ou qu'ils s'en servent contre toi. Un matin, j'ai décidé que ça allait se passer parce qu'ils essayaient de m'éliminer depuis le jour 1 et je ne voulais pas partir sans que personne ne le sache. Était-ce vertigineux de te montrer torse nu, avec tes cicatrices visibles devant tout le monde? J'étais prêt à être vu comme ça. Avec la température du Panama, je savais que ça arriverait plus tôt que tard. Pour les personnes trans, c'est souvent une expérience stressante ou euphorique. Moi, enlever mon chandail, ça me fait triper maintenant. Faire le ménage torse nu, en sweatpants, c'est malade. Donc, le faire dans le contexte de Survivor, c'était euphorique. Je n'avais pas encore dit aux autres que je suis trans, mais j'avais déjà enlevé mon chandail. Les autres concurrents voyaient mes cicatrices, mais personne n'a été intrusif. Pourquoi as-tu choisi d'être un joueur sans alliance? Je ne l'ai pas tant choisi. On me l'a imposé dès le premier jour. Comme on a commencé avec 3 tribus de 6 personnes, dès qu'un joueur agissait un peu en solo, ça devenait facile de l'écarter. Puisque j'ai cherché une clé tout seul dans la forêt, c'est devenu leur excuse pour me mettre à part. Rapidement, j'ai compris que j'étais en périphérie des duos et des trios qui se formaient. J'ai réalisé que c'était plus avantageux pour moi, car je savais qu'à 6 joueurs, il y aurait des trahisons assez rapidement. Donc, ce n'était pas si con d'être un vote pivot. En tant que personne trans, je m'entends aussi bien avec un gym bro qu'une girly pop. Je pouvais jouer sur les 2 tableaux assez facilement, et je l'ai assumé sans savoir que ça me suivrait toute la saison. Durant l'épisode où Patrice Bélanger vous questionnait sur la source de votre résilience, tu as évoqué l'adversité vécue avec ta famille quand tu leur as parlé de ta transidentité. Que s'est-il passé? Mes parents étaient mes grands amis depuis ma naissance. On était très proches. Même durant mon université, au lieu de prendre un appart, je vivais avec eux. On allait au chalet, on buvait et on festoyait ensemble. C'était vraiment de bonnes personnes que j'ai appréciées presque toute ma vie. Depuis mon enfance, je me questionnais sur mon identité de genre. Ce n'était donc pas une surprise. Mais quand j'ai communiqué que je voulais essayer les pronoms masculins pour voir comment je me sentirais, ils ont tellement mal réagi que ça a entraîné une séparation quasi instantanée. Ils ont rejeté totalement qui tu es. Oui, ils ont prononcé des paroles très difficiles. À quel point c'était décevant pour eux d'apprendre ça, qu'ils étaient fiers de qui j'étais avant, qu'ils me connaissaient mieux que moi-même. Ironiquement, ils étaient fiers de la fille lesbienne forte que j'étais à un certain moment. Mais là, ils étaient quasi répugnés que je m'identifie comme un garçon. Ils ne voulaient pas l'accepter. Les choses ont-elles évolué avec le temps? Il y a eu beaucoup d'échanges nocifs, toxiques et traumatiques. Des mots que personne ne devrait entendre de leurs parents. J'ai essayé pendant 1 an de les convaincre que j'étais la personne qu'ils ont élevée, mais je me faisais claquer la porte au nez chaque fois. Ils étaient 2 contre moi tout le temps. Ils disaient avoir de la peine à cause de moi et qu'ils avaient dû prendre une retraite anticipée à cause de la situation. Finalement, ils m'ont envoyé une lettre en me souhaitant « bonne vie » avec leur prénom au-dessus de leur signature de travail, comme si c'était un contrat. Pourtant, tu as longtemps cru qu'ils étaient très ouverts d'esprit, complètement. Ils travaillaient en communication marketing et en art. Ils rejetaient les idées très conservatrices après avoir eux-mêmes travaillé avec des personnes trans. Le fait que ça arrive dans leur famille et de ne pas l'avoir anticipé, alors que tous les signes y étaient, ça a tout changé entre nous. C'était Alex Gay-Bastien, Change le visage de la télé québécoise, une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 20 juin 2026 dans le magazine Fugue.
Faire le pont, un texte de Gabriel Anctil paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Les réseaux sociaux ont le dos large. On leur impute de multiples maux de notre société. On les fréquente presque honteusement. Mais entre les publicités et les commentaires haineux se trouvent aussi des communautés où l'entraide et la légèreté priment. Plutôt que les plateformes en tant que telles, le problème serait-il l'algorithme qui contrôle ce qui s'affiche sur notre fil d'actualité? Généralement conçu pour maximiser l'engagement et les revenus publicitaires, celui-ci ne se soucie ni de la qualité du contenu ni de sa véracité. D'où nos espaces sociaux virtuels emmerdifiés, pour reprendre la formule désormais convenue du journaliste canado-britannique Cory Doctorow, auteur du livre « Enshitification ». Et une polarisation croissante sur toutes sortes de sujets. Comment renverser la vapeur? Des équipes de recherche travaillent à résoudre ce problème, qui est une menace pour nos démocraties. Est ainsi né le concept d'algorithme créateur de ponts, Bridging Algorithm, qui récompense la construction d'une compréhension et d'une confiance mutuelle au-delà des divisions. L'idée est simple. Plutôt que d'afficher le contenu qui suscite les réactions les plus vives, on privilégie ce qui fera consensus auprès de gens d'opinions diverses. Les pièges à clics perdraient en puissance, remplacés par des publications conçues pour bien passer auprès d'un public varié. Ce type d'approche a été implanté sur Twitter, aujourd'hui X. Grâce aux Community Notes, le public est invité à ajouter des éléments de contexte ou vérifier des faits sous des publications. Seules les notes étant jugées utiles par des internautes de groupes diversifiés sont diffusées plus largement. Et ça marche. Une analyse de notes liées à la vaccination contre la COVID-19 parue en 2024 concluait qu'elles étaient en majorité exactes, citaient des sources modérées et hautement crédibles et étaient associées à des publications vues des centaines de millions de fois. Le concept a même fait ses preuves à l'échelle d'un pays. À Taïwan, le gouvernement a eu recours à la plateforme Polis, POL.IS, pour mener des consultations auprès de la population sur des sujets comme la vente d'alcool en ligne et la réglementation des taxis Uber, afin de résoudre des débats qui déchiraient la classe politique. On le sait, le design des espaces collectifs change la façon dont nous interagissons. À quand des places publiques chaleureuses pour notre monde virtuel? C'était « Faire le pont », un texte de Gabriel Anctil paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.